Dur, dur, ces paroles de Jésus. Je vous disais tout à l'heure que la parole de Dieu était là pour nous mettre debout, et là on se sent plutôt un petit peu écrasé, n'est-ce pas? Ce sont des paroles qui séparent, des paroles qui jugent, des paroles qui détruisent. Elles font partie de ces paroles bibliques qui ne me font pas vraiment du bien. Il y en a quelques-uns de ces textes, dans le Premier Testament ou dans le Nouveau Testament aussi, qui ne sont pas pour moi des paroles de vie. Je ne suis pas la seule. Il y a quelques mois, dans l'hiver, je recevais une de nos paroissiennes, une jeune femme, qui partageait son trouble profond à propos de ce texte. Elle me disait « Mais comment est-ce possible ?» Que ce Dieu d'amour, ce Dieu dont j'entends parler le dimanche au temple, soit un Dieu qui puisse emmener vers le feu éternel. Difficile de répondre. Ce sont des paroles d'évangile. Alors je lui ai dit simplement que peut-être ces paroles-là n'étaient pas pour elle aujourd'hui des paroles qui pouvaient la relever, et qu'il fallait sûrement les laisser de côté, en tout cas pour un moment. Alors, mis à part ce malaise quand l'écoute de ce texte, cette parabole des boucs et des brebis est l'un des textes sur lesquels s'appuient les personnes dans l'Église particulièrement tournées vers l'action sociale. Les chrétiens ont des façons diverses de vivre leur foi. Certains seront plus centrés sur une vie de prière, sur une vie de communauté. D'autres, au contraire, recevront de ce message d'évangile de se tourner vers les autres, vers le monde, vers la société. En effet, cette parabole est un des grands textes bibliques qui rappelle à l'Église sa place au cœur du monde. Ce texte, par la bouche de Jésus, dit « Nous ne pouvons être de Jésus-Christ que si et seulement si nous sommes aux côtés de tous ceux qui ont faim, des pauvres, des étrangers, des malades et des prisonniers. » Alors oui, ce message, lui, est assez clair. Mais je vous propose d'affronter les malaises que ce texte nous renvoie. Le malaise vient du fait que Dieu ici est présenté comme un juge impitoyable. Celui qui décide des justes qui auront la vie pour toujours et celui qui décide des injustes qui mourront dans le feu. Le jugement de Dieu. Voilà une grande question, une immense question. Certaines églises chrétiennes reçoivent ce texte comme une bonne nouvelle. Ils le reçoivent comme une nécessité de convertir le monde, de leur dire « Regardez, regardez ce qui est écrit ». Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous mourrez. Pour moi, il est difficile de choisir cette option. Et je préfère garder la question du jugement de Dieu ouverte. Les églises de la Réforme, depuis maintenant plus de 4 siècles, mais l'Église catholique aujourd'hui aussi, pose comme fondement de la foi le salut par la grâce. C'est-à-dire que nous sommes sauvés gratuitement, que Dieu nous donne son amour, qu'il nous sauve, qu'il nous donne son pardon, avant même que nous n'ayons fait ou dit quoi que ce soit. C'est ce thème qui est aussi développé par l'apôtre Paul dans plusieurs de ses épîtres. Si nous sommes sauvés, c'est par la personne de Jésus-Christ, par sa croix et par sa résurrection. Le salut ne vient pas de nous, il ne vient pas de nos œuvres, il ne vient pas de notre mérite. Il vient de cette rencontre avec le Christ. Et dans cette parabole, les sauvés sont ceux qui accueillent, sont ceux qui visitent, sont ceux qui nourrissent. Belle théologie des œuvres. Ce sont ceux qui font, qui sont auprès de ceux qui en ont besoin. Alors, essayons de situer cette parabole dans l'évangile de Matthieu. Souvent, quand on a comme ça des textes difficiles, on arrive à s'en sortir, plus ou moins. En tout cas, on est éclairé si on regarde ce qu'il y a autour de ce texte. L'évangile de Matthieu est constitué de 5 grands discours. Le dernier des discours comprend les chapitres 24 et 25, qui se terminent par notre parabole. On appelle parfois ces deux chapitres « discours sur la fin des temps ». Dans le chapitre 24, il y a ce que l'on appelle l'Apocalypse de Matthieu, c'est-à-dire la description d'un monde complètement bouleversé, abîmé par le mal, par la souffrance, par les guerres, par les injustices. Et au cœur de ce monde, qui finalement ressemble beaucoup au nôtre, le message que veut nous donner le rédacteur de l'Évangile, c'est qu'il y a encore de l'espérance. C'est que dans ce chaos, Dieu est et reste avec nous. Qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il est toujours là. On nous dit aussi qu'il reviendra. Il reviendra et qu'il nous faut tenir. Et dans l'attente de ce retour, le chapitre suivant, donc le nôtre, le 25, nous donne 3 paraboles. La parabole des 10 vierges, la parabole des talents et la parabole des boucs et des brebis. Chacune décrit à sa façon la manière de nous comporter dans ce monde en attendant le retour du Christ. Alors, rapidement, je vous rappelle un petit peu les 2 autres paraboles. La parabole des 10 vierges va insister sur le retard du retour du Seigneur. L'époux, alors on nous parle d'un époux, arrive au milieu de la nuit, alors qu'on l'attendait plutôt dans la journée. Et parmi les 10 vierges chargées de l'accueillir, de lui préparer sa place, il y en a qui ont envisagé ce retard, et il y en a d'autres qui n'ont rien prévu. Le message de la parabole est de nous inviter à vivre comme si le Christ revenait tout à l'heure, mais en même temps à prévoir aussi qu'il ne pourrait revenir que dans très longtemps, c'est-à-dire à s'équiper pour durer, à être assez fort pour attendre. Mais en même temps, s'il revient maintenant, pouvoir dire « je suis prêt ». Il s'agit ici, pour notre Église, de construire la communauté des chrétiens, pierre après pierre, dimanche après dimanche, projet après projet, afin qu'elle puisse encore être debout demain et qu'elle puisse durer. La parabole des talents, peut-être celle-là vous la connaissez un peu plus, elle nous invite à oser. Vous savez, c'est ceux qui ont reçu des talents, des pièces, et qui certains vont les enterrer, d'autres vont les faire fructifier pour en gagner encore plus et les ramener ensuite au maître. Cette parabole nous invite à prendre des risques, à ne pas garder ce que Dieu nous a donné pour nous, à ne pas être frileux. Il nous invite à faire grandir les dons que Dieu met en nous. Ici, le retour de Jésus ne doit pas nous faire peur, mais au contraire, il doit nous rendre encore plus debout, encore plus audacieux, encore plus joyeux pour être acteurs dans le monde. Notre parabole des boucs et des brebis nous invite, elle, à ne pas oublier le service de notre prochain. Ce service n'appartient pas aux bonnes œuvres de l'Église, au service d'entraide. Il est constitutif et partie intégrante de la vie de chaque chrétien. Et cette parabole nous dit « L'Église n'est pas fidèle à Jésus-Christ ». si elle oublie cela. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette période, entre le message que Jésus nous a donné et son retour. Nous sommes sauvés, c'est clair. Nous le savons, nous avons reçu cette grâce dans nos cœurs. Et en même temps, le message est clair. Nous devons vivre de notre foi, nous devons construire notre Église et lui donner les moyens de durer. Nous devons faire croître, exploiter, faire fructifier tous ces dons qui sont en nous et parmi nous, pour soulager, comme nous le pouvons, les souffrances du monde. Revenons au jugement. La parabole des 10 vierges va rejeter celles qui n'ont pas prévu ce retour. La parabole des talents nous invite à faire vivre notre don. Et le maître rejette ceux qui l'ont frileusement conservé. La parabole des boucs et des brebis nous appelle au service des petits. Et le roi rejette ceux qui l'ont négligé. En lisant ces paraboles, nous sommes témoins ici d'un Dieu qui nous invite d'abord à être responsables de nos vies. Alors vous allez me dire, et son jugement alors ? Dieu reste Dieu, et je crois que personne ne peut aujourd'hui dire ce qu'il fera et le jugement qu'il aura. Nous devons agir dans chaque journée qu'il nous est donnée. Nous devons réagir à cet amour offert. Au nom de celui qui est venu dans le monde pour les petits, dont nous sommes les premiers. Notre vie nous appartient, nous en sommes responsables. Qu'en faisons-nous ? Est-ce que nous aidons l'Église à se construire et à durer ? Est-ce que nous l'utilisons pour faire grandir les dons qui sont en nous ? Est-ce que nous l'utilisons pour être au service de ceux qui sont dans la détresse ? Nous avons tous des dons différents. Certains seront plus à l'aise auprès des malades, d'autres auprès des étrangers, d'autres encore auprès des prisonniers. Nous avons chacun un don pour nous mettre au service du monde. Vous avez remarqué une autre chose étonnante dans cette histoire, c'est que les justes sont étonnés du jugement de Dieu. Ils répondent au roi, « Mais maître, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avons-nous nourri ? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger et t'avons-nous accueilli ?» Là aussi, cette parabole nous dit que nul être humain ne peut accéder au jugement de Dieu. C'est une mise en garde. Aucun d'entre nous ne peut dire « Voilà ce que Dieu décidera pour toi. Voilà ce que Dieu décidera pour le monde. » Le jugement de Dieu n'appartient qu'à lui et nous devons être en confiance avec cela. En même temps, cette question des justes nous dit que Dieu est là pour dévoiler ce qui est caché. Elle nous dit que quand le Christ reviendra, nous comprendrons. Nous pourrons mettre des mots, une intelligence, une paix sur tout ce qui a été vécu. Le Christ est là pour illuminer nos ombres. Il est là pour déchirer le rideau. La foi, aujourd'hui déjà, nous invite aussi à ce chemin, passer des ténèbres à la lumière, dans notre être, dans nos actions, dans nos paroles. Ce pardon de Dieu transforme en nous nos êtres, si profondément que nous sommes des êtres nouveaux. Le pasteur Antoine Nuis parle ici, dans cette parabole, de transparence. L'amour de Dieu pour nous nous rend transparents au monde. En tant que chrétiens, nous sommes invités à être transparents, afin que puisse se lire dans nos paroles et dans nos actes la lumière, l'amour, le pardon de Dieu. Et cette transparence éclaire la façon dont nous vivons auprès de ces petits. que ce ne soit ni une option, ni une bonne action laborieuse, mais une attention à toutes celles et ceux qui partagent notre humanité. Que tout ce qui est mis en place pour chacun soit comme une respiration, une lumière qui nous révèle et qui révèle aux autres le doux amour de Jésus-Christ. Alors, nous pourrons être transparents à la vie de Dieu. Amen.